la lettre de Paul aux Philippiens. Cela fait plusieurs dimanches qu'on en parle, lorsque nous étions en 2015. On a fait un peu l'introduction. Par exemple, nous avons vu que c'est une lettre que Paul écrit à ses églises, à cette église à Philippe, et il entretient des relations particulièrement chaleureuses avec cette église. Donc voilà quelques phrases du début de cette épître. Je rends grâce quand je pense à vous. Je manifeste ma joie au sujet de votre contribution à la diffusion de l'Évangile. Je vous porte dans mon cœur. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc il y a vraiment des relations très étroites entre Paul et les Philippiens. Et nous avons vu aussi que Paul, au moment d'écrire cette lettre, se trouvait en prison, certainement, mais il y a un petit point d'interrogation, à Rome. Et il écrit pour dire que ce qui lui était arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. On peut se dire, comment ça se fait? Parce que le grand apôtre envoyé par Dieu aux païens, donc aux non-juifs, se trouve depuis déjà certainement à peu près 2 ans en prison, d'abord en Israël, à Césarée, et puis à Rome, donc empêché en quelque sorte de répandre l'Évangile comme il aurait voulu, mais il voit que tout est entre les mains de Dieu. Et donc la première raison, il dit au verset 13, « En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. » Donc il était au centre de l'Empire. C'est comme en quelque sorte, il était emprisonné au sous-sol de l'Élysée, on va dire. Il avait des personnes qui s'occupaient de lui, la garde prétorienne, qui étaient les soldats d'élite, chargés de la protection de l'empereur. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde savait, parce que quand quelqu'un a dit, je crois que j'ai cité un théologien qui a dit, on peut plaindre Paul qui était en prison, mais on peut aussi plaindre ces gardes prétoriens qui devaient entendre l'évangile jour après jour dans la bouche de Paul, alors qu'ils ne pouvaient pas le quitter parce qu'ils devaient le garder. Et donc à partir de là, et on voit d'ailleurs la fin des Philippiens qui parle de certains qui s'étaient convertis, donc de la garde prétorienne. Donc voilà, il est au cœur de l'Empire et donc il prêche l'Évangile au cœur de l'Empire. Et la deuxième raison, c'est qu'il dit, de plus, verset 14, « Mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur, aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » En disant, bah, si Paul peut parler de l'Évangile alors qu'il est en prison, nous qui avons toute notre liberté, il n'y a rien qui nous empêche aussi de parler du Seigneur et d'annoncer l'Évangile. Donc il redouble de confiance et d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que l'on a vu jusqu'ici. Mais donc, je vais juste revenir une seconde. Voilà. Et je souligne la deuxième ligne. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. Parce que si l'Évangile était tout simplement une sorte de liste de conseils ou de commandements, on peut dire, mais quoi ça sert? Mais l'Évangile, c'est la proclamation d'un fait historique. Jésus mort, ressuscité pour le pardon de nos péchés. La grâce de Dieu, la bonne nouvelle de notre salut. Donc à ce moment-là, on peut accepter les souffrances, on peut accepter les difficultés, parce qu'on annonce une bonne nouvelle, et pas simplement, ce n'est pas partager un idéalisme non fondé ou de bons conseils, c'est un fait. Et donc on peut annoncer le salut en Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire la suite, donc les versets 19 à 26. Je les lis donc dans la version seconde. Il faut juste recommencer à la fin du verset 18, il dit qu'il se réjouit, il se réjouit encore, car, verset 19, Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Je pense que sans contredit, c'est le verset 21 qui est la clé de ce texte. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Juste pour le mettre dans son contexte de nouveau, avant de développer cette pensée, donc j'ai dit que Paul est en prison. Mais il dit au verset 19, nous l'avons vu, qu'il est optimiste par rapport à son acquittement, à sa libération. Il dit, je pense que cela tournera à mon salut. Je pense ici que ce n'est pas salut dans le sens salut éternel, hein, c'est être sauvé, délivré de la prison. Hein, donc peut-être certaines traductions peuvent le dire comme cela. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc il compte sur la prière des Philippiens. Et dit que le Saint-Esprit va en quelque sorte utiliser ses prières pour que finalement l'empereur à qui il avait fait appel, parce qu'il croupissait en prison en quelque sorte à Césarée, personne ne voulait s'occuper de son cas. Donc il a fait appel à César, ou à l'empereur, voilà, transféré à Rome, avec une tinophage entre les deux. et il dit, on va. Grâce à vos prières et l'assistance du Saint-Esprit, je pense que ça tournera à mon salut. Donc il est assez optimiste. Il dit aussi, au verset 20, qu'il veut glorifier Dieu dans son corps. Je redis le verset. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Autrement dit, quoi qu'il arrive, ce que je veux, ma motivation dans la vie, c'est que Jésus soit glorifié. C'est ça, la motivation fondamentale. Et il dit, il est convaincu qu'il n'aura pas honte de par son attitude, son comportement, et je pense que si je veux le mettre dans le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est parce que les gens vont voir qu'il a une cohérence entre sa foi et ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que s'il dit, je n'ai pas peur de mourir parce que je vais être auprès du Christ, et après, il commence à dire autour de lui, ah mais j'ai peur que je ne serai pas acquitté, il y aurait une incohérence. Mais il dit, que ce soit par la vie ou que ce soit par la mort, je veux glorifier le Seigneur dans mon corps. J'ai été frappé d'ailleurs, et je me suis posé la question, pourquoi il a ajouté ces trois mots dans mon corps? Parce que la phrase est tout aussi compréhensible si on enlève ces mots. C'est dit, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans ma vie, en quelque sorte, avec une pleine assurance, mais dans mon corps. Et je pense que la réponse à cela, et c'est important pour nous, c'est que le christianisme, on va dire, est la religion le plus, qu'on peut dire, matérialiste qui soit. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui pensent qu'il faut échapper à la prison de son corps, en quelque sorte, hein, pour être spirituel. Non. On glorifie Dieu dans son corps. aimer son prochain comme soi-même, qui est le plus grand commandement sur le plan horizontal, Jésus le dit, c'est aller rendre visite aux malades, c'est apporter un verre d'eau à celui qui a soif, c'est, etc. etc. Justement, l'histoire du bon samaritain, il n'est pas passé voir la personne attaquée qui était couchée là sur le chaussée en disant que Dieu te bénisse. Il s'en était occupé. Et donc, et le fait même que Jésus a pris un corps comme le nôtre pour s'incarner montre bien l'importance de notre corps, de notre vie qui se manifeste. On ne peut pas vivre autrement que dans son corps. Tout ce qu'on fait passe par nos oreilles, nos yeux, notre langue, nos mains, nos pieds, etc. Et je pense que cela est important, de glorifier Dieu dans notre corps. Je vais passer à une phrase que j'ai souvent citée parce que je trouve qu'elle est profonde et qui nous aide à bien situer notre vie. Et donc, c'est important parce que je vais y arriver un peu plus tard dans ce message. Une phrase d'un théologien qui dit que pour le chrétien, le spirituel n'est pas plus important que le matériel, mais l'éternel est plus important que le temporel. Je trouve très profond. Parce que ça veut dire que dans notre vie, on glorifie Dieu par le matériel autant que par le spirituel. Tout ce qui se passe par notre vie, notre argent, notre parole, ce que l'on fait pour les gens, ce que l'on fait pour les autres, du matériel. Et on ne peut pas dire, je suis très spirituel, je loue Dieu, si on ne s'occupe pas de la personne qui est à côté de nous. Par contre, cela ne réduit pas la vie au matériel. Parce qu'on vit, on sait que nous sommes appelés à la vie éternelle par la foi en Jésus. Donc, le temporel n'est qu'une salle d'attente, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma prière, la parole est venue en quelque sorte comme ça. Parce que l'éternel, c'est ça qui est important. Et notre monde, et je vais revenir à ça tout à l'heure, nous pousse dans la pensée en quelque sorte que le matériel fait qu'il n'y a que cette vie qui compte. Alors qu'on peut glorifier Dieu de façon très concrète, tout en disant que l'éternité, c'est ce qui est le plus important. L'un n'exclut pas l'autre. C'est une façon très particulière de regarder la vie en tant que chrétien. On glorifie Dieu dans notre corps, mais on dit que l'éternité est plus important que le temporel. Mais nous aurons aussi un corps spirituel. Donc, on arrive à notre verset clé de nouveau, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et au fond, l'avenir de Paul est entre les mains de Dieu. C'est ça qu'il reconnaît. C'est ça qu'il reconnaît. Que son avenir est entre les mains de Dieu. Et il écrit aux Philippiens, il est un petit peu ambigu d'abord, parce qu'il dit, bon, je ne sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère rester, verset 22 le dit aussi, il dit au verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, mais après, il se pose une autre question, le verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est pour ça qu'il dit au verset 22 qu'il ne sait pas ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère pour lui être auprès du Seigneur, ou est-ce qu'il est plus utile, en quelque sorte? Et c'est ça la question qu'il se pose. Est-ce qu'il est plus utile qu'il reste pour servir le Seigneur dans ce monde? Donc c'est pour ça qu'on dit que notre vie est entre les mains du Seigneur. Pourquoi il y a des martyrs? Pourquoi des gens qui meurent plus jeunes que d'autres? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, et là, personne ne peut m'en contredire, ce n'est pas à l'instant même où on croit en Dieu pour le salut éternel qu'il nous enlève de la terre pour dire, ça y est, il est sauvé. Il reste là pour qu'on puisse annoncer à d'autres cette bonne nouvelle. Et il le fait par notre bouche. Et notre façon de vivre. Donc voilà, Paul raisonne finalement pour dire le plus important, c'est de servir le Christ et les autres, et de ne pas rester simplement sur ses propres préférences. Et il donne trois raisons, en fait, pour préférer la vie, les versets 25 et 26. D'abord, la joie des Philippiens, qui voulaient le revoir, au moment où ils sortaient de prison. Leur avancement dans la foi, parce que je pense que Paul se disait, dès que je sors d'ici, donc je vais pouvoir me rendre utile dans l'Église aussi, et je vais pouvoir revoir les Philippiens, sinon de toute façon je peux le faire aux autres, je vais les enseigner, les former, les accompagner, les aider dans la marche avec le Seigneur. Mais la troisième raison, je vais m'arrêter quelques instants sur cela, c'est aussi, elle dit, afin que vous ayez un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, j'ai mis la traduction du Sommeur, que ce soit une raison d'être fier en Jésus-Christ. Pas orgueilleux, hein, mais fier. Fier de ce que nous avons en Jésus-Christ. Et je voudrais, en fait, développer cette notion d'être fier en Jésus-Christ pendant 2-3 minutes. 5-6 minutes. Sans... Quelle est notre fierté en Jésus-Christ? Je vais développer deux idées. La première, et je l'ai dit la semaine dernière déjà, Paul écrit quelque part qu'il n'a pas honte d'écrire les mêmes choses, mais répéter les mêmes choses. Le mal existe vraiment. Et je pense de plus en plus que autour de nous, je vais répéter ce que je dis dimanche passé, c'est que les gens vivent dans le pays des bisounours, où tout le monde est gentil, et sauf quelques exceptions. Et quand on pense à l'anniversaire de ce qui s'est passé il y a un an en France, on a l'impression qu'il y a quelques méchants, tous les autres sont de remarquables citoyens qui ne font que du bien autour d'eux tout le temps, quand on écoute les informations, alors que bon, il n'y a que quelques méchants, dommage qu'ils soient là, parce que tous les autres, ils sont bons. Et Marie a vécu quelque chose au magasin cette semaine, à Equilo, justement, quelqu'un est venu discuter avec elle, et qui disait, je crois au jugement de Dieu, c'est une bonne chose, le jugement dernier, et me disait, et c'est pour punir les personnes qui ont fait autant de mal, Dieu va rétablir les choses. Et quand Marie a commencé à dire, mais nous serons tous jugés, la personne ne voulait rien savoir. Et pourtant, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous échappons au jugement, c'est uniquement par l'amour et la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Et je crois qu'il est important de souligner cela. Jésus, c'est la phrase qu'on a lue à l'étude biblique mercredi soir. Jésus nous sauve de la colère de Dieu. Nous avons lu ensemble cette expression de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Éloigne de moi cette coupe. Abba, Père, si ça est possible. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Donc, et cette coupe, on l'a étudiée dans Ésaïe, on l'a vue dans Jérémie, on l'a vue dans l'Apocalypse, on a vu que dans les trois fois, c'est toujours la coupe de la colère que Dieu fait boire en quelque sorte les conséquences de notre mal, de notre péché. Et nous avons également lu dans Romains chapitre 5 que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a une vraie colère de Dieu qui est son opposition totale à l'égard du mal, à l'égard du péché. Et c'est pour cela que nous avons une première raison d'être fiers en Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui nous sauve. Ça, c'est une première partie de notre fierté en Jésus-Christ. Deuxième partie, c'est que Jésus exauce nos prières. Et après, je vais mettre les deux ensemble. Pour ceux qui suivent la page Facebook de l'Église, il y a quelques-uns qui mettent des likes. C'est bien, je suis content. Au moins, ça montre que quelqu'un visite notre page. J'ai mis, il y a une semaine, la phrase suivante. En ce début de 2016, n'oublions pas la prière des chrétiens depuis 2000 ans. Enfin, j'ai cité 1 Timothée 2, on dit on prie pour les autorités, pour que nous puissions vivre dans la paix et la tranquillité, et pour nos concitoyens, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, surtout concernant Jésus-Christ, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais j'ai ajouté une phrase, parce que je me dis, la personne qui regarde ça peut dire, oh là là, la paix et la tranquillité, ça on ne voit pas. Mais j'ai dit, prière exaucée des millions de fois au cours de l'histoire. N'oublions pas. Parce que s'il y a des attentats, il y a des jours sans. On vit beaucoup plus dans la paix et la tranquillité qu'on le mérite. Quand on voit ce qui est au fond de notre cœur, quand on voit les millions de personnes qui ont compris le message de l'Évangile depuis 2000 ans, des millions, des milliards, là, cette prière était exaucée. Et il ne faut pas simplement se laisser faire quand les gens disent « Regardez le monde ». En fait, je mets les deux ensemble. Le chrétien, il dit, le mal est vraiment là, mais, j'ai discuté avec Marie cette semaine et on a trouvé la façon de dire, le mal est toujours là, on le croit vraiment, mais on n'est pas parano. Parce que on sait, nous, on fait confiance à Dieu dans cette situation. Alors que la plupart des gens autour de nous, je me rencontre avec des attentats et des races, ne croient pas que le mal soit vraiment là, mais ils sont parano parce qu'ils ne savent pas à qui faire confiance. C'est tout le contraire. On vit totalement le contraire des autres. Parce qu'on sait que le mal est là, rien ne surprend. Rien ne nous surprend. Mais en même temps, on dit, ma vie est entre les mains du Seigneur. Pour moi, la vie, c'est Jésus. Mourir, c'est un gain. De toute façon, je fais confiance. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps. Que nous pouvons vivre dans la tranquillité. Tout en disant que le mal est vraiment là. En nous et en d'autres. Voilà donc notre fierté. Nous pouvons être lucides vis-à-vis du monde. Alors que les autres disent, mais c'est pas possible, comment ça se fait que les gens puissent faire ça? Moi je me dis, parce qu'on parle du nombre de fusils aux États-Unis, je ne sais pas combien de fois en France quelqu'un aurait tué quelqu'un s'il y avait eu le moyen de le faire. Combien de fois les gens en veulent à d'autres? Combien de fois. Parce qu'on parle de quelques morts par des attentats, mais combien de suicides parce que des parents ou des conjoints ont été exécrables? Combien de personnes mortes sur les routes parce que les gens ont bu ou parce qu'ils étaient trop orgueilleux pour penser qu'ils maîtrisaient leur voiture? Enfin, etc., etc., etc. Le mal est vraiment là, mais nous on fait confiance à Dieu. Donc, le verset clé, Christ est ma vie. Et mourir met un gain. Donc, posons-nous la question. Est-ce que cela est vrai dans mon vécu? Si je vis sur la terre, est-ce que c'est vraiment pour dire « je vis pour Jésus » ? Mais des fois, je me pose la question. Parfois, on a presque... Il ne faut pas avoir honte. On peut parler de lui. Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut, la vie éternelle comme don de Dieu, que je ne mérite pas, mais qui me donne? Parce que ça, c'est vivre dans la réalité. Dire exactement comme Paul, « Christ est ma vie et mourir est un gain. Seigneur, que tu imprimes cela profondément dans notre cœur pour qu'on puisse vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.